La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Le week-end dernier, au Sénégal, à Dakar et à Saint-Louis, se tenaient des ateliers de la pensée organisés à l'initiative de Felwine Sarr et d'Achille Mbembe. L'idée était de réunir en Afrique une nouvelle génération de chercheurs, d'intellectuels, d'écrivains africains ou afro-descendants. Et parmi la vingtaine d'invités, un certain nombre sont passés au micro de la suite dans les idées. Achille Mbembe à de nombreuses reprises, mais aussi Mamadou Diouf ou Alain Mabankou. Ce n'était pas encore le cas de Léonora Miano. Mais comme elle publie aux éditions de l'Arche l'impératif transgressif, le troisième, je crois, recueil d'essais qu'elle publie chez cet éditeur, on peut découvrir d'elle, à côté des romans qu'elle publie maintenant depuis une dizaine d'années, on peut découvrir d'elle d'autres types d'écrits, de réflexions, notamment sur la littérature, sur la littérature subsaharienne, mais aussi sur des questions plus directement politiques peut-être, sur la francophonie, sur le racisme. Nous allons parler de ces questions aujourd'hui avec Léonora Miano, à la suite dans les idées. Bonjour Léonora Miano.
Bonjour.
Je suis très très heureux de vous accueillir juste après ces ateliers de la pensée parce que j'ai hâte que vous nous racontiez un peu ce qui s'est passé. Moi j'aurais beaucoup aimé être au Sénégal le week-end dernier, ça a duré 3 jours je crois. Vous étiez une vingtaine, des historiens, des philosophes, des écrivains, des chercheurs de différentes disciplines.
Économistes, sociologues.
À réfléchir au fond, non seulement à réfléchir, mais j'imagine la dimension concrète était très importante. Le fait d'être réunis, parce qu'aujourd'hui on peut réfléchir en s'envoyant des mails, etc. Mais là, le fait symboliquement que ça ait lieu au Sénégal, Felwine Sarr a choisi de s'installer à nouveau au Sénégal et de travailler depuis là-bas, c'est, j'imagine, quelque chose d'important.
Oui, de très important, et ça a été des journées intellectuellement très 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 intenses. Et je pense que nous tous qui avions préparé des communications à l'intention du public, à force d'entendre les autres, nous allons remanier. Chacun va remanier son travail. Mais c'était important aussi parce que je pense que nous avons besoin de nous retrouver pour penser ensemble. Pas seulement l'avenir du continent, mais l'avenir de ses relations avec les espaces auxquels il est lié historiquement depuis longtemps. Comment refonder ces relations. Donc c'était un peu ça l'idée, et puis de partager ces réflexions avec le public, vraiment le tout venant, pas seulement des étudiants, mais toute personne intéressée par la formation d'une nouvelle pensée de l'Afrique sur elle-même.
Et il en sortira, j'imagine, un volume collectif, j'espère.
Oui, des actes très très denses, je crois. Ce sera passionnant. Moi, j'attends avec impatience.
Alors, on va patienter. Puisqu'il est des questions de Dakar, j'ouvre l'impératif transgressif, votre livre qui paraît à l'Arche, à la page 72. Ça s'appelle, c'est une section qui s'appelle « Comme on nous parle », dire le monde français. Et voilà ce que vous écrivez. Lorsque François Hollande, parce qu'à propos de Dakar, avant de vous citer, on pense évidemment à ce discours tristement célèbre de Nicolas Sarkozy à propos de l'homme africain qui ne serait pas entré dans l'histoire. Oui. On se rappelle de Nicolas Sarkozy. Mais en revanche, on ne se rappelle pas de ce que François Hollande a choisi de dire dans ce lieu marqué par ce discours de Sarkozy quelques années plus tard, le 29 novembre 2014. D'ailleurs, vous remarquez que ce discours, à peu près personne n'y a prêté attention. Mais pourtant, vous citez François Hollande, qui dit donc le 29 novembre 2014, c'est en français que les peuples se sont décolonisés, en français qu'ils ont accédé à l'indépendance et à la liberté.
Oui, autant dire qu'ils ont accédé à l'intelligence et à l'humanité en français. Je crois que François Hollande et les personnes qui écrivent ces discours ne réfléchissent pas à la portée des mots. Peut-être n'était-ce pas ce qu'il voulait dire, mais c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que j'ai très bien compris et voulu analyser. Et interroger aussi les raisons pour lesquelles, lorsqu'on se trouve en Afrique, On est tout d'un coup pénétré de cette espèce de morgue. Pourquoi on parle de cette façon aux gens? Quelles sont les représentations que l'on traîne en soi, malgré soi, hein, mais que dont on est rempli pour que voilà ces relations soient si difficilement égalitaires et respectueuses. C'est la question que je voulais poser. Elle a posé aussi parce que il y a de plus en plus au sein de la jeunesse subsaharienne aujourd'hui un sentiment anti-français que de tels propos ne peuvent que consolider. Alors que je pense que globalement, les populations de part et d'autre voudraient des relations plus apaisées. Mais que ça a vraiment passé, non pas seulement par la décolonisation de l'Afrique, mais la décolonisation de la France. Il est temps. Hein, de sortir de la plantation.
Et les mots, pour ça, sont essentiels. Et c'est évidemment le travail d'un écrivain d'y faire particulièrement attention. D'autant que parfois, les mots échappent. Ils ont probablement échappé à François Hollande ou à celui qui a écrit ce discours, disiez-vous, avec charité. Mais ils peuvent échapper aussi à des gens extraordinairement cultivés et qui, par exemple, organisent des assises internationales du roman. vous expliquez en ouverture de cette collection d'essais que vous avez été invité aux assises internationales du roman en 2014 à Lyon, événement organisé par la Villa Gilet, pour répondre à une question. Et vous mettez en note de bas de page cette question. La littérature a-t-elle le pouvoir de garder vivant le souvenir de cultures lointaines ou minoritaires, de faire revivre la mémoire de mondes oubliés? Certains romanciers choisissent d'emprunter les démarches d'enquête de l'ethnographe ou de l'historien. Soucieux de revenir sur les réalités vécues lors de l'histoire coloniale et de ses prolongements, ils s'essayent à donner une vigueur nouvelle aux univers culturels que cette histoire a bouleversés. Comment, en mêlant enjeux politiques et approches poétiques, donner à lire la richesse de mondes en voie de disparition? Et cette question, évidemment, vous avez choisi de ne pas vraiment y répondre ou d'y répondre en vous penchant sur un corpus de littérature subsaharienne pour montrer à quel point cette question ne pouvait être formulée dans le territoire encore colonisé de la France, en ces termes. Parce que cette question qui, au fond, renvoie à l'idée d'une identité forcément malheureuse de l'Afrique n'a rigoureusement aucun sens pour les écrivains. Vous en apportez la preuve en citant des textes littéraires qui ne sont pas du tout des textes hantés, obsédés par la question de l'identité telle qu'elle peut faire des ravages en France.
Non, parce que finalement, il se pose plein de problèmes aux Africains contemporains, mais je ne crois pas que la question pour eux soit identitaire. Quand vous grandissez en Afrique subsaharienne, à l'inverse d'une personne d'ascendance africaine qui grandit en France, même si on vous dit que votre pays est pauvre, ben vous grandissez dans un pays où les enseignants, les médecins, les pharmaciens, les ministres, même le président de la République ont votre tête. Donc vous savez que vous pouvez être tout ça en travaillant. Vous savez que c'est possible, donc n'ayez pas ces limites-là à l'esprit. C'est très important parce que ça signifie que vous ne vous construisez pas en situation de minorité. Vous ne vous construisez pas non plus en dehors de quelques espaces particuliers comme l'Afrique du Sud par exemple, en fonction de votre race. Puisque tout le monde est noir, vous n'êtes pas noir, vous êtes quelqu'un. Vous êtes quelqu'un et les Africains sont ça avant tout. Et lorsque on lit les auteurs africains, qu'ils soient romanciers ou essayistes, eh bien on s'aperçoit que personne n'est plus dur à l'égard des sociétés d'où ils viennent, que personne n'a le verbe plus acerbe pour critiquer, pour examiner, enfin pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Les gens ne sont pas en train de se lamenter. Ils font ce que font des personnes pleines d'elles-mêmes. Ils analysent ce qui leur est arrivé. Mais les autres n'entendent pas parce qu'ils viennent à ces textes pour se conforter finalement dans l'idée qu'ils ont déjà de ces espaces et des personnes qui en viennent. Donc on vient chercher la douleur liée à l'histoire coloniale, le problème identitaire, quand il s'agit de femmes, la soumission. Et on ne voit jamais finalement le reflet de sa propre humanité parce qu'on n'y est pas préparé. Mais nous les Africains, quand on lit Shakespeare, on se voit nous. On ne voit pas des blancs dans Shakespeare. Quand on lit Tchekhov, on ne voit pas des blancs, on se voit nous. parce qu'on est des gens. Donc vraiment, l'urgence du 21e siècle, c'est de décoloniser le monde occidental.
Oui, d'autant que nous, quand on met en scène Othello, on met même pas en scène un noir, ce qui est quand même... on peut en rire, mais c'est...
Oui, mais ça indique une fragilité. Ça indique une fragilité qu'il faut examiner. Je le dis avec... d'autant plus de tranquillité que je suis très bien ici, moi. Mais oui, je vois ces fragilités, ces résistances intérieures, ces espèces de manifestations aussi de la dissonance cognitive, les stratégies qu'on met en place pour éviter d'affronter sa mémoire, pour ruser avec ses propres principes sans cesse. Il est temps d'un peu de maturité pour changer tout ça.
Vous faites le récit d'expériences professionnelles difficiles, peut-être tant mieux pour la littérature d'ailleurs. vous racontez comment des producteurs de télévision ont tenté de vous convaincre d'amender des scénarios, et plus exactement le casting, enfin la liste des personnages, parce que précisément il était inimaginable de produire une fiction pour la télévision française avec un couple noir. Oui. Il fallait forcément que le couple soit mixte, voilà, noir et blanc.
Sinon c'est raciste. Mais ça, c'est la même chose. C'est parce que on ne voit pas les gens. On ne voit pas des personnes quand on regarde. Il y a une espèce de chose avec cette couleur de peau noire qui fait que les corps apparaissent tellement denses qu'il n'y a plus que ces corps. On ne voit plus ce qu'il y a derrière. Mais je prétends, moi, que le public français est assez mûr. Le public, pas les décideurs, mais le public. J'en suis convaincue parce que je vis au milieu des gens. Pour juste voir une histoire d'amour quand c'est une histoire d'amour et qu'on s'en fout de la couleur des gens. Et que l'audace aujourd'hui, c'est d'être capable de montrer ça.
Ce que j'ai trouvé très très intéressant dans l'ensemble des essais que vous publiez, Léonora Miano, là, c'est que vous essayez de comprendre aussi et d'expliquer en quoi ces questions qu'on peut à certains égards penser comme universelles, qui peuvent se poser dans beaucoup de situations géographiques dans le monde, revêtent une forme particulière en France, du fait de la République, du fait d'un certain nombre de croyances dans ce qu'est ou ce que serait la République, du fait de, pour la République, de finalement, on pourrait croire avoir la même attitude que vous, c'est-à-dire ne pas vouloir voir la couleur, sauf que c'est pas du tout de la même façon qu'elle procède. Cette manière d'être colorblind, principielle, de la République, conduit à produire des formes de nanoracisme, dirait Achille Mbembe, qui sont spécifiques à la France et qui produisent des dégâts aussi spécifiques sur les personnes, parce qu'on ne reçoit pas ces formes de racisme-là de la même manière qu'un racisme beaucoup plus affiché, beaucoup plus revendiqué au fond par ceux qui tiennent des propos inacceptables.
Oui, tout à fait. Je ne prends pas du tout... la cécité à la couleur, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut la voir sans l'investir de signification. Et c'est là qu'on n'est pas encore arrivé. On met encore du sens là-dedans. Et c'est un piège, hein. Il faut en sortir de ce piège de la racialisation. C'est pas facile parce que ça fait longtemps. Et que, en réalité, de part et d'autre, les gens ont ces présupposés. Mais je crois que le problème avec la France, c'est aussi que elle a une idée fausse d'elle-même. Elle se raconte encore qu'elle est un hexagone. Moi, je dis que la France est un drôle de grand archipel. Que la France est en Guyane française, où les gens ne sont pas blancs tous et ne seront jamais des occidentaux. Il faut accepter cette idée. Où en plus, il y a des gens qui sont français, non pas parce qu'ils sont venus à la France, mais parce que la France leur est tombée dessus. Ils étaient chez eux en Amazonie et elle est venue, s'est emparée des territoires et ne veut toujours pas accéder à leurs demandes en la matière d'ailleurs. La France, c'est la Réunion, c'est Mayotte, ce sont les Antilles. Enfin, il faut vraiment imprimer ça. Quand les politiques parlent de France, ils ne parlent que de la France hexagonale qu'ils fantasment blanche. Et ça, ils sont un peu hors sol. Ils parlent pas du pays réel et donc ne sont pas en mesure de le gouverner, de former un projet pour lui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut simplement recadrer, quoi. C'est pas très difficile. C'est pas très difficile.
Et là encore, je dirais l'outre-mer, le fait que le territoire français puisse prendre cette forme d'archipel dont vous parlez, est quelque chose qui passe encore. j'apprends une chose incroyable en vous lisant page 82 de l'impératif transgressif, c'est que en 2011, l'UNESCO avait décidé de dédier cette année 2011 aux personnes d'ascendance africaine. C'est l'UNESCO, donc c'est à l'échelle de la planète, ou à peu près.
De la planète, et ça s'impose aux pays membres.
Ça s'impose aux pays membres. Donc on sait que la France est non seulement un pays membre, mais un pays qui entend jouer un rôle important à l'UNESCO. Eh bien, tenez-vous bien, vous nous apprenez, Léonora Miano, que la France a décidé de rebaptiser ou de reconfigurer cette année dédié aux personnes d'ascendance africaine en une année des Outre-mer.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une question spécifique avec l'Afrique quand même ?
Ah, il y a une pathologie. Il y a une pathologie qui est une blessure narcissique. C'est-à-dire que tant que l'Afrique était colonisée, si vous regardez bien l'histoire, vous verrez des tas d'Africains brillants, politiques, députés, sénateurs, enfin toutes ces choses, étudiants à l'IX déjà. Et puis ces gens, après la guerre, demandent l'indépendance. Et là, c'est comme si la France, on lui disait « je t'aime plus ». Alors qu'on lui dit simplement « je t'aime tellement que je veux qu'on soit des égaux, je veux qu'on soit les mêmes ». Et ce n'est jamais passé. Et à partir de ce moment-là, il se crée une espèce de désordre dans l'esprit français vis-à-vis de cet espace qu'on ne peut pas quitter, qu'on ne souhaite pas quitter parce qu'on y est très 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 lié depuis des siècles, parce que les rapports avec l'Afrique datent, allez, au bas mot de Louis XIV. Et en même temps, voilà, on leur en veut d'avoir osé demander une place moins subalterne.
Vous précisez un peu plus loin dans ce livre que la décennie 2015-2024 est au niveau international, toujours pour l'UNESCO, consacrée aux personnes d'ascendance africaine pour combattre le racisme, les discriminations, protéger ces populations ostracisées, mettre en valeur leurs apports aux cultures du monde. Mm-hmm. Et vous remarquez qu'à jusqu'à aujourd'hui, la France a pris aucune espèce d'initiative.
Non, et
dans
j'en ai beaucoup à lui suggérer. J'ai plein d'idées.
Ça, j'en doute pas.
J'ai plein d'idées, peu onéreuses d'ailleurs. Mais bon, à la décharge du pays, peut-être qu'on peut dire que l'année 2015 a été tellement marquée par les attentats et endeuillée que on n'a pas considéré que c'était la priorité. Mais je pense que la priorité, c'est justement de rester vivant. On ne sait pas quand ces choses-là vont nous tomber dessus. Il ne faut pas que tout s'arrête parce qu'il y a ça. Donc, on peut élaborer des projets. On n'est pas obligé de le faire de façon tonitruante, mais il faut le faire. C'est très important. Il y a des populations en France qui sont d'ascendance africaine, qui appartiennent à cet espace, qui ont peut-être des spécificités. Mais lorsqu'on s'en approche, ce qu'on voit surtout, c'est que les Noirs en France, c'est pas des Américains et qu'ils ont pas envie d'être des Américains. Et qu'il faut arrêter de leur proposer que ce modèle-là. Quand on rend hommage en France à des figures noires, comme on l'a fait récemment au théâtre de l'Odéon, c'est des figures noires américaines. C'est une expérience qui est très 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 distante de celle d'ici. Et ça peut être dangereux à terme. Parce que si véritablement les Noirs de France décidaient d'épouser ce modèle-là, je pense que ça ferait vraiment voler en éclats, pour le coup, le modèle français.
En revanche, ce qu'on peut peut-être prendre pour exemple, c'est d'autres modes de décolonisation. Je parle de la décolonisation qu'il reste à faire. Hein,
oui,
celle
tout
qui
à fait.
Concerne le territoire de la République française dont vous parliez tout à l'heure.
Ouais.
Et notamment, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce que ces ateliers de la pensée par lesquels on a ouvert l'émission qui se tenait à Dakar devraient être un événement intellectuel couvert beaucoup plus largement par les médias français. Si on était dans un contexte britannique d'ailleurs, on peut se demander si tels ateliers auraient lieu de cette façon-là, parce que les intellectuels anglophones ont davantage accès aux médias, c'est une évidence. Ça vaut aussi pour vos collègues écrivains qui sont reconnus par les institutions de légitimation littéraire. Vous consacrez le dernier essai du livre à votre parcours, à une tentative d'auto-analyse, en quelque sorte réflexive.
Oui, on a dit que c'était très risqué, donc je l'ai fait.
Oui, mais vous avez raison, parce que c'est passionnant de comprendre ce que on attend de vous, la manière dont vous devez vous conformer d'une certaine façon pour être reconnu. Les choses sont sensiblement différentes en Grande-Bretagne. Les médias sont quand même un petit peu plus ouverts à ceux qui viennent des anciennes colonie britannique. Et puis, c'est pas que les médias. Vous disiez tout à l'heure Quel modèle pour les Africains qui vivent en France? Quel modèle pour les jeunes dont la peau est noire, qui sont à l'école aujourd'hui en France et qui ne voient dans leurs écoles de noirs que à la cantine ou de femmes de ménage et si peu d'enseignants? Comment poser ces questions dans un pays où on n'a pas le droit de produire des statistiques pour montrer ces réalités-là?
J'avais déjà abordé le problème dans un texte intitulé « Les enfants cachés de Marianne » qui se trouve dans un précédent ouvrage « Habiter la frontière ». En fait, la France a juste à se conformer à ses propres idéaux. Hein, c'est très simple. La différence avec l'espace britannique vient de la manière dont la France a approché les différences. Pour elle, et avant même de rencontrer l'Afrique, hein, ça a déjà été comme ça ici, il fallait uniformiser, unifier. Et les Français ont toujours ce fantasme d'aller fabriquer du français ailleurs. Alors que les Anglais, qui sont très très pragmatiques et très, contents d'eux-mêmes aussi, très sûrs d'eux, partent du principe qu'ils fabriqueront pas de l'anglais. Les gens sont pas assez bien pour être English. Vous pouvez être British, mais ce n'est pas English. Donc, à partir du moment où tout le monde peut être British, on le prend comme il est et on voit de façon très très pragmatique quels sont les talents de chacun et ce qu'il peut apporter. En France, il faut d'abord que tu sois français, que tu montres à quel point tu t'es dessaisi de tout ton bagage, à quel point même tu le renies ouvertement pour qu'on considère que tu es des nôtres. Or, nous sommes aujourd'hui à une époque où les gens n'ont plus envie de ça.
D'où le zèle mis certaines fois par de nouveaux arrivants à renier.
Oui.
C'est frappant.
Parce que ce pays le demande. Ce pays le demande. Mais l'époque est aujourd'hui à la transversalité. Les gens veulent revendiquer de multiples appartenances, ne veulent pas choisir. Et je pense qu'ils ont raison, parce que c'est ce qui va nous permettre de pacifier les relations entre les espaces. Si pour des citoyens français, la prospérité de la France compte autant que celle du Sénégal, par exemple, vous imaginez bien qu'on rentre dans un autre type de rapport. Et c'est vers là qu'on tend, si on laisse des personnes s'exprimer et être elles-mêmes. Donc il va falloir, je crois, assumer voilà son idéal, celui qu'on a proposé à ses propres enfants, et puis le tenir. On ne peut pas ruser avec ses principes en permanence. On ne peut pas énoncer une promesse et ne jamais la tenir, pour certains en tout cas.
Vous parliez de Marianne et de ses enfants cachés, mais
ouais, elle en a plein, Marianne, des enfants cachés.
Vous avez aussi publié le 30 août dernier dans Libération un texte très très fort qui s'appelait Marianne et le garçon noir, un texte qui revenait sur la mort d'Adama Traoré.
C'est-à-dire que j'ai été bouleversée par l'événement, par la manière dont il est survenu, et totalement déchirée par le traitement qui a été réservé à sa famille. Ce n'était pas la première fois. On avait déjà vu ça avec la famille de Lamine Dieng, par exemple. Il y a un problème, je crois, dans la manière dont le pays regarde ses populations noires, et en particulier les garçons noirs. Ils sont très mignons jusqu'à l'âge de 14 ans. À partir de 14 ans, ça devient des espèces de monstres, et on ne fait plus attention. Hein, même quand la personne n'est pas armée, on a l'impression que quelque chose se déconnecte dans l'esprit des forces de l'ordre, et la violence devient tout d'un coup démesurée. Elle peut l'être dans d'autres cas, on l'a vu, hein. Mais la récurrence du phénomène ici m'a interpellé, moi, et j'ai vraiment éprouvé le besoin d'en faire part à nous tous pour qu'on réfléchisse. Ce sont pas des enfants qui viennent d'ailleurs. Et même un petit délinquant, même un toxicomane, s'il n'est pas menaçant, rien ne peut justifier qu'il décède aux mains de la police. Il faut vraiment regarder ces questions et peut-être former aussi différemment les forces de l'ordre, interroger les mécanismes qui amènent de tels événements à se répéter, et prendre conscience aussi de ce que provoquera à terme la récurrence de ces faits. Ça va radicaliser. Je parle pas sur le plan religieux, hein, mais je parle de la manière dont toute une jeunesse, ne se sentant pas acceptée dans le seul pays qui est le sien, va se dresser contre lui. Il faut faire attention à ça. Et qu'on ne dise pas qu'on n'avait pas été prévenu. Pour moi, c'est très grave. Les gens qui viennent d'ailleurs et qui font des enfants ici, les donnent à la France. Ces enfants, même si les parents en ont parfois le désir, n'appartiennent pas à un ailleurs. Ils appartiennent à ce pays-ci. Et il ne faut pas qu'ils y grandissent en ayant l'impression qu'il leur faut particulièrement se battre pour y être respectés.
Dernier thème que vous abordez dans l'impératif transgressif, on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais c'est une question extrêmement importante, c'est celle que vous appelez la déportation transatlantique des subsahariens,
oui.
DTS.
Oui.
Pour enfin nommer correctement une question sur laquelle, d'une certaine façon, bute encore la littérature subsaharienne. Vous appelez de vos voeux tous les écrivains à se saisir de cette question. Ils finiront bien par le faire. Mais c'est une question extrêmement difficile. Les savoir déjà nommer, alors ne plus parler de traite transatlantique, de traite des Noirs, de traite négrière, mais parler de déportation transatlantique des subsahariens.
Oui, c'est l'appellation que je propose parce que il importe que l'Afrique énonce sur cet événement-là, ce phénomène, une parole qui soit la sienne. Or, si elle énonce une parole qui soit la sienne, ça peut pas être une parole racialisée. Parce que toute parole racialisée lui interdira d'examiner le vécu subsaharien en la matière. On est dans un espace où, à l'époque, il n'y a personne qui se définisse comme africain ni comme noir. C'est pas des histoires qui se sont passées entre des noirs. Si on dit les noirs, on peut pas comprendre pourquoi les uns ont pu agresser les autres, par exemple. Donc il y a une terminologie à trouver pour que l'Afrique subsaharienne puisse parler d'elle-même et d'abord à elle-même, parce que ce qui manque vraiment, c'est la prise en compte de cette histoire au sein des États actuels, où des populations ont été réunies alors qu'elles avaient dans leur mémoire ce passé qui n'est toujours pas apuré. Et donc certaines inimitiés dites tribales trouvent en réalité leur source dans cette mémoire douloureuse et il faut s'y attaquer.
Merci beaucoup, Léonora Amiano. Je rappelle le titre de cette collection d'essais, de critiques littéraires, d'essais politiques, d'essais qui portent sur l'Afrique, mais aussi sur la France contemporaine.
Oui.
L'impératif transgressif, donc il est publié aux éditions de l'Arche. On trouve les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter l'émission, où vous pouvez également vous abonner au podcast.
Merci de votre invitation.
C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Denet, à la technique Manuel Couturier, à la réalisation Lionel Quentin. Et c'est Étienne Klein que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.